Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
Une émission réalisée par Laurence Thomas, assistée de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz et Enzo Labori.
Oh les cœurs face à l'horreur, ne pas les laisser gagner en cédant à la peur, ne pas rester KO debout après ce qui nous arrive. Et on se dit que, alors même que beaucoup sont allés faire la queue pour donner leur sang ce matin, beaucoup trop d'autres concitoyens n'ont pas attendu avant de foncer tête baissée dans le piège de la division. Et on se dit encore une fois que le couvre-feu devrait aussi s'appliquer à certains mots fétides. Pour penser à ceux qui luttent encore contre la mort, à ceux qui cherchent toujours des nouvelles de tous ces visages apparus sur nos réseaux sociaux. Nicolas Hénin, que vous entendiez ce matin sur Inter, nous le rappelait. Ce qui se passe n'est pas nouveau ni même rare. La seule rareté, c'est que ça se passe sous nos fenêtres plutôt que dans un pays lointain. Difficile après ce qui nous arrive de vous parler d'autre chose, mais face à l'horreur, pas rester KO debout et recommencer dès maintenant à travailler ensemble.
C'est un micro ça ?
Ouais.
C'est un micro ça ?
Ouais, c'est un micro, ouais. C'est pour faire de la radio quoi.
Si on teste pas autre chose, on sortira jamais de notre bocal. Donc le futur, on va l'inventer quelque part. On est parmi les lieux où on peut aujourd'hui inventer ce futur-là.
C'est pas un brrrr. Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Aujourd'hui, nous vous proposons un remix de plusieurs de nos reportages. Retour au pays des Fab Labs. Des lieux où s'invente le futur, où s'élaborent les nouvelles technologies. Des lieux où des jeunes et des moins jeunes bidouillent. Les sons aussi façonnent cette matière qui nous tient tout particulièrement à cœur. Là où collectivement se fabrique notre avenir numérique, où le Kidam apprend à faire lui-même, où ensemble on se réapproprie les nouveaux outils de la production 2.0. Des lieux où l'imagination est au pouvoir, pour s'amuser, pour inventer, mais aussi pour résister à l'hégémonie qui règne dans les nouvelles technologies. Comme un bruit qui court, retour au pays des Fab Labs, c'est sur France Inter jusqu'à 17h.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Imaginez un lieu où un ouvrier du bâtiment viendrait après le chantier faire joujou avec une fraiseuse numérique, dernier cri. Où une charmante grand-mère vient vous poser une question à propos d'un MOOC sur Arduino. Ou des lycéens qui font leurs devoirs avec une imprimante 3D, croisent un ex-cadre au chômage qui vient découper au laser la nouvelle invention qui va le remettre en selle. Tous ces gens et bien d'autres, vous pourrez les croiser dans ces nouveaux lieux, les Fab Labs. Des lieux à la fois collaboratifs et ouverts où tout un chacun peut venir apprendre et essayer ce qu'il veut. L'idée a germé au MIT quand un professeur s'est mis en tête de laisser ses élèves s'approprier toutes les machines high-tech de la prestigieuse université. Ambition tellement vaste qu'on a parfois du mal à la cerner et qui s'est propagée un peu partout dans le monde. Notre guide pour ce voyage au pays des Fab Labs, c'est un livre, Fab Lab, etc. Les nouveaux lieux de fabrication numérique, écrit à 6 mains et 3 auteurs. Pour commencer notre visite, Ophélia Nour nous emmène à la Cité des Sciences, ou plutôt sous la Cité des Sciences, où nous attend David Forgeron avec les clés pour entrer au Fab Lab du Carrefour numérique.
Bon. On s'enfonce dans le sous-sol de la Cité des Sciences, Carrefour numérique.
Bienvenue au Carrefour numérique.
Samedi robot, Living Lab, le labo.
Là, on est en train de mettre en place un événement autour de la robotique pour qu'on veut faire de manière régulière pour travailler avec tous les enthousiastes autour de la robotique puis en profiter pour l'appropriation des technologies.
Et voilà.
Le Fab Lab, qui pour l'instant, en fait, n'est pas encore ouvert au public à cette heure-ci. Donc, je vous laisse vous installer. Faites comme chez vous.
C'est un petit côté caverne d'Ali Baba, hein, Ophélia.
Ah, je préviens, par contre, c'est vraiment le bazar.
On entend le bruit des instruments qui sont en veille, là. Ouais. Et de l'aération dans cette espèce de local. Ça fait des briques et de broc avec des machines, des paillasses, des lumières, des tiroirs, des étagères où il y a des tonnes de trucs empilés. Des aimants, des pièces, un disque dur, des circuits imprimés, Je fais tout moi-même, tome 1. Entretenir, réparer, améliorer, s'outiller, s'installer. Be careful, this machine has no brain, use your own. C'est très drôle, cette machine n'a pas de cerveau, utilisez le vôtre. Là, il y a quoi ?
Des imprimantes 3D, en fait, réplicables, en fait. C'est-à-dire qu'avec une imprimante 3D, tu refabriques les pièces pour fabriquer une autre imprimante 3D.
Il y a ce bouquin que vous sortez sur les différents Fab Labs en France, dans le monde, sur l'historique de ce mouvement.
On a lieux de fabrication, en fait. C'est Fab Labs et autres lieux de fabrication.
À savoir des lieux où on essaye de casser le mur qu'il y avait entre faire et savoir-faire.
C'est ça, on essaie de casser le mur entre faire et savoir-faire et de partager les connaissances. Ça, c'est très important. Et d'avoir des utilisateurs qui s'entraident. Quand tu débarques dans un Fab Lab, en général, c'est un autre utilisateur qui va te montrer comment te servir des machines, qui va te former. Lui-même a été formé par un autre utilisateur. Pareil, quand tu travailles sur un projet, tu en parles avec les gens autour de toi, avec la communauté, et chacun, avec ses différentes compétences, va pouvoir t'aider. Et ce qui réunit tous ces gens-là, enfin, je pense que c'est cette envie de se réapproprier en fait la fabrication personnelle grâce aux outils, aux machines numériques.
Pas juste aller avec commander sur Internet et cliquer, mais cliquer pour réussir à le faire soi-même, quoi. Ou le faire à plusieurs.
Oui, tout à fait. Il y a cette espèce de d'échange et puis cette idée aussi de tout ramener en local, quoi.
Pendant qu'on parlait, là, il y a des gens qui sont entrés, des ordinateurs qui sont allumés, des gars qui discutent avec un stylo sur l'oreille au fin fond du Fab Lab. Attention, rangement et tri dans le Fab Lab. Avec toi, point d'interrogation. Oh là, là, c'est des machines qui font du bruit. Laser, marking, cutting, engraving. C'est des grosses machines, pas dépassées 250 mètres cubes par heure. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ?
Je suis venu développer un instrument de musique pour les DJ.
Et là, ça consiste en quoi ?
C'est une platine que vous portez autour du cou, qui vous permet de prendre la scène, en fait. La machine en elle-même, elle ressemble à ça.
Ah ouais.
Ça donnera ça.
C'est pas mal, c'est vraiment une platine.
Ouais, c'est une platine.
Verticale, pour pouvoir aller faire des numéros de danse du ventre en même temps que vous scratchez.
Exactement, faire le show, quoi. Complètement.
Et ici, alors, du coup, vous avez trouvé ceux qui vous aidaient pour vous donner des conseils, pour dire fais pas ci, fais pas ça, ou tiens, tu devrais essayer ça.
Alors la chance que j'ai, c'est que je suis tombé sur un spécialiste de l'électronique et qui m'a sauvé d'un point hyper critique. J'avais un problème de diode. Je connais pas grand chose. Je suis musicien, je suis pas du tout maker ou ingénieur à la base. Et cette personne est arrivée et en 2-3 minutes a pris la pièce, vu que c'est le concept ici de pouvoir aider les autres. Et il m'a aidé. On est hors d'une logique vraiment de production et de rentabilité et c'est hyper pratique, quoi.
En fait, le Fab Lab, si je comprends bien, c'est l'étape d'après le bidouilleur qui est tout seul dans son garage.
Garage directement. Communautaire, en fait.
Voilà, garage à plusieurs avec des technologies en plus et un échange de savoir-faire.
Avec des grosses machines.
C'est clair.
C'est fait pour ça, en fait.
David,
comment on dit, Fab Manager ou Lab Manager ou...
Oui, on peut parler de chargé de projet Fab Lab. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur ma carte de visite.
Oui, parce que c'est ça, on n'est pas dans un hangar, on n'est pas dans un squat, on est dans une institution.
Dans une institution institutionnelle, c'est exactement ça. Et justement, on essaye un peu de désinstitutionnaliser l'institution. On a le droit de toucher, on a le droit de bricoler. C'est-à-dire qu'au travers de la fabrication de petits robots, réalisation d'une lampe, on va en profiter pour faire... prendre conscience à tout un chacun que ça n'est pas parce qu'on n'a pas fait des études scientifiques qu'on n'a pas possibilité d'avoir accès à ce type d'outils et surtout de les utiliser. Hein, ce n'est pas réservé à des ingénieurs, ce n'est pas réservé à des designers. C'est accessible à tous. On pourrait parler de réappropriation des outils de production. Hein, ce n'est pas non plus un gros mot, quoi.
Et c'est à eux de le faire.
Et c'est à eux de le faire, bien sûr.
Ça m'a plu le bruit de l'imprimante. Qu'est-ce que je peux enregistrer comme petit bruit là ? Ah là, il est devenu silencieux le moteur.
Ah bah oui. Donc on va juste le relancer. Hop, print. Alors je ne sais pas par contre ce qui a été lancé.
We'll be right back.
Place Voltaire, Arles.
C'est un micro ça ?
Ouais, c'est un micro, ouais. C'est pour faire de la radio, quoi. Alors, c'est quoi tout ce truc d'après toi, là ?
On peut dire comme des instruments enfants. C'est eux qui l'ont fabriqué, en fait.
Une espèce d'effet un peu comme ça.
C'est tout ça en fond.
Le son est à fond, là. Voilà. Regarde, touche plus. Là, en fait, il a frisé. Il crée des boucles étranges.
Écoute.
Une espèce de boucle étrange. Ah, là, t'as réussi à le relancer. Pas mal. Essaye encore celui-là, un coup. Alors là, ici, bah, c'est un clavier circuit bendé. Donc c'est francisé, hein, circuit bendé. En fait, ça vient de circuit bending, c'est-à-dire tordre un circuit. Le circuit bending est un art, est l'art de détourner des objets de faible voltage, comme ce petit synthé, de les court-circuiter, en fait.
Et ça, c'est un gamin qui a une vingtaine d'années, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est un Casio Rapman, qui est très cheap, qui a un son très cheap. Mais une fois qu'on le tord, il fait des choses... Voilà, par exemple, là, ça y est, elle est partie. Donc là, elle va jouer comme ça jusqu'à ce qu'elle ait plus de piles. Là, je peux changer un peu les choses. Voilà. Là, c'est vachement joli, elle fait des trucs super jolis. Et donc, ça permet en fait de créer des matières sonores, de créer en fait une espèce de chaos sonore. Soit je vais l'utiliser comme générateur de son, l'enregistrer et puis créer de nouvelles compositions à partir de ça. C'est une espèce de boîte de Pandore sonore.
Alors c'est du hacking sonore, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Bah, c'est une forme de hacking. Dans la famille du hacking, le circuit bending est une forme.
Alors là, on pourrait être à l'IRCAM, au Centre Beaubourg ou à la Fondation Cartier, mais on est au PMU,
on est chez Ali.
Café de la Paix. Voilà.
Ouais, on est chez Ali, ouais.
À Arles, voilà.
Et c'est gratis, en plus.
Et on enregistre sur un téléphone, quoi.
Ouais.
Et là, c'est les gamins du quartier qui testent, quoi.
Ouais, voilà. Bah ils étaient là la dernière fois. Ils savent qu'ils peuvent venir jouer après. Donc ils rappliquent après, quand on a fini, quoi.
Alors c'est quoi cette formation ?
On est trois musiciens un petit peu barrés, bricoleurs. On est tous les trois luthiers.
Et toi c'est ?
Moi c'est Pierre-Éric, alias Junk & Pop. Moi je suis luthier électronique. Henri, lui, est luthier des flûtes en fait. Il taille des roseaux, des pipeaux de Camargue avec des roseaux. Et Alexis est plus dans la cassette. Et donc c'est un manipulateur de bandes magnétiques qui détourne des magnétophones. C'est du bal, ouais, on a la volonté de faire du bal, de faire danser dans la musique traditionnelle, quoi.
Poste à cassette, c'est ça, un vieux cassette qui fait guitare, quoi.
C'est... Ouais, ça.
Et mais... qu'est-ce que tu reconnais d'autre, quoi, là-dedans ?
Ben, je reconnais des cassettes comme ça, là.
Alors toi, tu bidouilles quoi ? C'est quoi ton domaine ?
Eh ben, là, enfin, en tout cas, sur ce projet, je fabrique des instruments à partir de cassettes, de magnétophones. C'est analogique, mécanique et magnétique. Je fais ça depuis une quinzaine d'années.
Il y a un pur Walkman là. Hein.
Ouais, il y a plein de choses. Ça, c'est la cassette toupie. On l'active en tirant avec la toupie comme ça.
Je peux essayer ?
Non. Non, parce que c'est fragile. Il faut avoir un. Il faut avoir...
Je peux faire comme ça ?
Non, il faut, parce qu'il faut, tu vois, il faut un coup de main et tout ça. Si tu l'as pas, c'est, ça peut être dangereux.
Mes deux collègues, là, Junk & Pop et Teptronic, alias Pierre-Éric Lesage et Alexis Malbert, je les ai rencontrés à un festival qui se déroule à Arles.
Data Beat Me.
Donc moi je suis venu avec un peu un looper, j'ai un projet que je commence à lancer, il s'appelle Delta Sonic, tout ça. Et je suis tombé sur ces deux fous là, donc on a tapé le bœuf le premier soir. Et voilà, ça a démarré comme ça.
Le bal Poptronic, quoi, c'est ça.
C'est ça, c'est le bal Poptronic.
I'm
Je suis en train de travailler derrière des laptops. Comment ça s'appelle ici ?
La paillasse.
La paillasse.
Voilà, la paillasse.
Ça continue de bosser dans tous les coins, chacun un peu dans son coin, sa paillasse. Il y a des pipettes et vraiment une paillasse avec le carreau. Là, il y a un bout de scie. Là, il y a une espèce d'énorme machine de pyrodistillateur de l'Institut Pasteur. Et là, on voit d'autres gens qui rentrent, d'autres qui partent. C'est un peu porte ouverte, c'est ça, hein ?
Oui, oui, ça circule.
Suite de notre visite au pays des Fab Labs, et à côté du joyeux foutoir de ceux qui veulent inventer de nouveaux possibles, il y a aussi des lieux plus institutionnels comme La Paillasse, rue Saint-Denis à Paris. Ce biohacker space, né en 2011 dans les caves d'un squat à Vitry, est aujourd'hui un laboratoire communautaire pour les biotechnologies citoyennes de 750 m² soutenu par la ville de Paris. Et tous y voient d'un très bon œil le passage des bidouilleurs vers l'économie réelle pour pouvoir jouer dans la cour des grands. Est-ce déjà la fin de l'amateurisme pour les Fab Labs ? On poursuit notre visite guidée avec cette fois Camille Bosquet qui a participé au livre Fab Lab, etc. aux éditions Erol.
On est quand même dans un espace qui fait 750 mètres carrés sur deux étages, donc il est cave, où j'ai voulu vous emmener tout de suite parce que moi je trouve que c'est assez dingue en fait.
Ah bonjour, on passe une porte, il y a une dame qui vous dérange, désolé. Là il y a des étagères avec des fioles et des pipettes. Là il y a une bonbonne d'azote.
Il y a des unités centrales d'ordi.
Ah oui c'est vrai, au fond là c'est la four micro-ondes.
Alors là.
C'est quoi là ? Chill out, please come in, une porte.
Bah come in hein.
On va voir ce qu'il y a. Le Fly Lab, make drones not war, faites des drones pas la guerre.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes en train de bosser là, c'est ça en plus, on vous dérange
ben là, on regardait pour du matériel,
faire à souder.
Faire à souder, ouais.
Tout simplement.
Oui, parce que je vois chez vous, c'est plutôt un bel établi.
Chez nous, c'est les drones plutôt, hein, voilà. On va dire.
Moi, c'est Charles.
Et Thomas.
D'accord. Voilà. Alors, le Fly Lab.
Bah, le Fly Lab, justement, nous, on fait des drones en ce qu'on appelle do-it-yourself. Quoi. C'est...
Faites-le vous-même.
Faites-le vous-même, exactement, pour que ça coûte le moins cher possible.
Ça, c'est à gauche, c'est celui qu'on voit dans le commerce, et à droite, c'est le vôtre.
C'est un drone cagette.
C'est vraiment voilà, une cagette.
C'est une cagette qui vole.
Prince de Bretagne, on peut même faire la pub. Défendons le goût du frais.
Légumes bio.
Bio, en plus. Là, vous êtes bon sur toute
donc,
la ligne
c'est
pour l'instant.
L'antithèse de la technologie dans le drone, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de technologique, tout est fait à la main, au compas dans l'œil, ouais. Et ça vole très bien.
C'est vrai ?
Et voilà, c'est ça. Donc, en fait, il ne faut pas grand-chose, quoi. Hmm. Parce que c'est vrai que, bon, c'est...
Un cageot volant.
C'est une cagette volante, ouais. Voilà, pour livrer les légumes.
Bon, bah écoutez, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup pour l'accueil.
Bah, de rien, c'est toujours agréable de parler.
C'est vrai que ça fait un peu labyrinthe, là.
Là et puis là, il y a toute une partie que vous n'avez pas encore vue. Peut-être remonter à la surface.
Ouais. Comment je vous présente et comment vous présentez ce lieu ? On est la paillasse à Paris.
Vous pouvez me présenter comme un des papas du lieu qui a fini par former une famille d'expérimentateurs ensemble et qui a fini par grossir. Il fallait pas seulement agrandir la famille, mais aussi agrandir le terrain de jeu. Quoi. Donc on a créé un laboratoire entièrement équipé qui vaudrait normalement plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ce pour 0 euros.
En récupérant du matériel déclassé de laboratoire de...
Voilà, exactement. On a des équipements que les laboratoires mettaient à la poubelle et qui étaient encore fonctionnels. Et puis en effet, pour arriver à Paris, pour faire des aides publiques, on a toujours la mairie de Paris. Voilà, donc mettre à disposition en fait des technologies qui sont normalement réservées à un cadre un peu élitiste, les démocratiser et voir en fait ce qui peut en sortir lorsqu'on a une approche low cost, à bas coût.
C'est ça un des maîtres mots. Quoi. C'est-à-dire, c'est plus simplement dans les laboratoires de recherche et développement des grands groupes et des grandes multinationales que les idées peuvent prendre forme.
Exactement. Hein, on a un credo ici, c'est dire qu'il n'y a pas de monopole pour les grandes idées. Parmi les tout premiers projets qu'on a réalisés au sein de Payas, on a développé ce qu'on appelle le Quick and Dirty DNA barcoding. En soi, c'est juste un test génétique low cost. On voulait en fait donner la possibilité à n'importe qui de pouvoir savoir ce qu'il y a dans son assiette. De ce qu'on a dans le lasagne, du bœuf ou du cheval.
Mais ça n'arrive pas ça d'avoir du cheval dans les lasagnes.
Je veux dire, c'est beau de faire confiance. Des fois, il faut savoir pouvoir amener une réponse parallèle, faire une contre-expertise. Donc, jusqu'à présent, les outils d'analyse de la matière ou du vivant étaient quand même relativement chers et inabordables. Là, c'est plus le cas. Voilà, donc, si on veut vraiment penser l'après, imaginer une potentielle révolution, il faut d'abord en fait penser la démocratisation de la technologie, baisser les coûts et laisser les gens en fait imaginer leur propre usage. C'est-à-dire que se laisser surprendre. Et pas forcément en fait laisser toujours eux-mêmes la possibilité d'innover à notre place.
C'est pas laisser les biotechnologies à Monsanto.
Oui, au-delà de Monsanto, c'est surtout la question de qui se met en position de force en fait pour imposer une vision particulière en fait des biotechnologies. Donc il s'agit en effet de proposer en fait une contre-approche. Et surtout en fait pas seulement une contre-approche, c'est autant de contre-approches possibles qu'il y a de porteurs de projets pratiquement. Donc voilà pourquoi on est un laboratoire ouvert aussi et communautaire. On n'est pas là en fait pour dicter en fait la manière de faire.
Voilà, mais alors justement à ce propos, imaginez je suis un investisseur dans un fonds d'investissement qui est en train de miser sur les nouvelles technologies et je vois votre projet, j'entends votre discours, je suis banco, j'arrive avec mon chéquier. Comment je suis reçu ?
Évidemment, on sera très heureux que des projets puissent avoir le soutien en fait, de financeurs, évidemment. On les voit souvent, en tout cas, aujourd'hui, traîner autour de la paillasse. Oui, évidemment, ils se posent beaucoup de questions.
Les biotechnologies à lab dans le Fab Lab. Alors, qu'est-ce qui est en train de se travailler dans ce laboratoire ? Une nouvelle arme biotechnologique, un nouveau vaccin, des nouveaux tissus vivant, non, c'est juste le café qui est en train de se préparer.
Comme un bruit qui court.
Le Radio Fab Lab.
Mais c'est ça que ça a en commun, tous ces lieux, que ce soit ici, au Japon, vous en avez vu aussi aux États-Unis.
Ouais.
C'est qu'à chaque fois, il y a un espace, des gens qui viennent avec leurs compétences, d'autres qui viennent avec juste leurs envies, et puis du matériel qui est mis en commun, et des idées mises en commun, et puis surtout des technologies et des savoir-faire qui sont mises en commun.
Voilà, c'est ça exactement. Et au milieu de tous ces gens-là, il y a beaucoup de curieux qui viennent pour comprendre, et puis qui découvrent au fur et à mesure de leurs discussions avec les gens qu'ils peuvent rencontrer, que finalement, n'importe quel savoir-faire peut se partager. Et c'est ça qui est bien quand on vient à la paillasse, c'est qu'on trouve dans cet endroit-là des gens qui ont des projets vraiment, vraiment tous azimuts.
Là, c'est vraiment le côté paillasse de la paillasse, si j'ai bien compris.
Tu participes au projet BioInc ou...
Je peux vous déranger deux secondes ?
Ouais.
Parce que je vois que vous êtes derrière votre écran.
Là, on est sur un projet de création d'entreprise. Et donc...
Donc vous n'êtes pas un geek qui bidouille dans son coin, si
non,
j'ai bien compris.
Pas
du tout. Le cliché colle pas, là.
Le cliché colle pas, là, cette fois. Moi, j'ai fait une école de commerce. Et en plus de ça, je suis spécialisé dans ma formation en finance. Et donc j'ai travaillé avant, en plus de ça, pire, dans une banque d'investissement.
Ouais.
Avec des vrais banquiers,
avec des business models qui doivent être sérieux.
Business models.
Et l'attente de retour sur investissement.
Exactement, des opérations à plusieurs centaines de millions d'euros, etc.
Pourquoi ça vous a pas plu ce monde-là alors ? Pourquoi vous avez arrêté ?
Je dirais que c'est pas qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce monde-là, c'est qu'est-ce que je fais ici. On essaye de créer une entreprise, mais avec des nouveaux modèles. Et c'est vrai que finalement, ça n'a pas de sens, en tout cas pour moi, de créer une entreprise et de dire « voilà, mon but, c'est de faire du profit. » Et que du profit. Le profit n'est plus un but, c'est un moyen.
Bon, bah écoutez, je vous laisse travailler. Merci beaucoup.
Merci. Nous sommes en 2015, après Jésus-Christ. Toute la toile est occupée par des services centralisés. Toutes ? Non.
Dégoogliser Internet.
C'est la mission que se sont fixés les membres de l'association Framasoft qui milite pour un Internet libre. Google, figure de proue du capitalisme numérique, avec Apple, Facebook et Amazon, les GAFA, qui colonisent nos usages du net et centralisent dans leurs serveurs la plus grosse partie de l'activité de la toile. Un web qui se voulait pourtant au départ être tout le contraire, décentralisé et plus démocratique.
Nous sommes Google.
Nous sommes là.
Nous sommes Google.
Hé, fermez Google !
Alors, Alexis Kaufmann, vous êtes fondateur de Framasoft. Pourquoi est-ce qu'il faut se libérer de Google aujourd'hui ?
Alors, donc, on a lancé une campagne de dégooglisation, c'est pas facile à prononcer. Alors, moi, je suis prof de maths. L'informatique, à sa naissance, dans les années 50-60 aux États-Unis, le code informatique se partageait exactement comme les mathématiques au sein des universités américaines. Et puis, il y a des petits malins, entre guillemets, parce que ce sont devenus les Bill Gates et les Steve Jobs, etc., qui se sont dit, on va fermer le code et on va le commercialiser. Et certains ont résisté. C'est un peu comme la guerre des étoiles, hein, pour faire des références geek. Certains se sont dit, on peut plus partager comme avant le code, on va résister. Et la résistance, elle s'est faite aussi bien d'un point de vue technique que juridique. C'est-à-dire qu'il a fallu déposer les bases juridiques de ce que c'est qu'un logiciel libre pour garantir ses libertés et pour le protéger. Et Microsoft était un petit peu le symbole de la fermeture dans nos ordinateurs personnels, dans nos ordinateurs domestiques. C'était du temps où, de temps en temps, on se connectait à Internet via notre modem. Sinon, on faisait du traitement de texte, puis voilà, un peu d'Internet, un peu de traitement d'image. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. On est tout le temps sur Internet. Les applications se sont déportées sur Internet. Certains disent dans le cloud ou dans les nuages, mais c'est une expression tout à fait subjective et connotée. Non, elles sont sur d'autres serveurs. Ce qui fait que Google, aujourd'hui, représente... comme Microsoft, hier, représente un petit peu la symbolique du grand méchant... qu'il était bon par le passé de haïr Microsoft. C'était très facile, ils étaient arrogants, tout était complètement fermé, ils avaient une mauvaise image, ils n'avaient pas des beaux produits, ça plantait souvent, donc c'était assez simple de haïr Microsoft. Haïr Google, c'est beaucoup plus compliqué, parce que Google, ils aident le logiciel libre. Alors, ils appellent pas ça le logiciel libre, ils appellent ça plutôt de l'open source, le fait que le code source soit ouvert, et donc ainsi sur une manière différente de faire de l'informatique, beaucoup plus facilement entendable par le monde de l'entreprise. Alors que le logiciel libre, c'est la liberté des utilisateurs, et là, c'est beaucoup plus subversif.
Au milieu des multinationales tentaculaires, quelques organisations non lucratives continuent de lutter activement pour un web ouvert et respectueux des internautes.
Votre annonce sur Google, dès aujourd'hui, assurez-vous une visibilité optimale auprès des internautes au moment précis où ils recherchent sur Google les produits et services que vous proposez.
Alors nous voilà de retour pour cette première journée de l'Open World Forum. On accueille tout de suite Pierre-Yves Gosset, délégué général de l'association Framasoft.
Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis délégué général de l'association qui s'appelle Framasoft, dont l'objet est de promouvoir la culture libre en général et le logiciel libre en particulier. Et je vais essentiellement vous parler justement de décentralisation. Dans ce petit talk que j'ai appelé Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, le logiciel libre peut-il résister à la colonisation technique et économique ? Alors on est à l'Open World Forum, qui est un salon qui accueille des entrepreneurs, des développeurs, des utilisateurs de logiciels libres, cible entre guillemets de notre association, vu que nous on s'adresse avant tout au grand public, à des gens qui utilisent les logiciels. Je pense qu'il y a des représentants, en tout cas de Google aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal vu qu'ils utilisent eux-mêmes massivement du logiciel libre. Le problème, c'est le côté hégémonique, voire, si j'ose le terme, impérialiste, qui peut y avoir derrière ces entreprises, qui aujourd'hui deviennent des points de passage quasi obligés. Quand on va allumer un ordinateur ou allumer son smartphone, il devient aujourd'hui quasiment impossible d'éviter ces entreprises.
Alors Pierre-Yves Gosset, quelles sont les alternatives ?
Pour nous, il s'agit pas d'éliminer Google. Aujourd'hui, Google propose des choses essentiellement gratuitement. Par contre, comme c'est pas à base de logiciels libres, et Google est devenu aujourd'hui tellement puissant, donc le chiffre d'affaires de Google dépasse les 80 milliards de dollars. Google est la deuxième capitalisation boursière mondiale, la première étant Apple, et ces entreprises ont le moyen de racheter quasiment des États. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le monde vers lequel on va. Nous, informaticiens, on le sait, on s'en inquiète. La difficulté est de faire prendre conscience de ce fait-là au grand public. C'est entre autres pour ça qu'on a lancé cette campagne.
Monsieur Tristan Nitto.
Qui utilise Gmail dans la salle ? Levez la main. C'est donc une catastrophe officiellement. Je vous remercie.
Alors, on est à l'Open World Forum. Vous êtes, disons, le représentant de Mozilla, de la fondation Mozilla. Alors, vous avez pris la parole, Tristan Etau, pour l'ouverture du forum. Alors, pourquoi c'est si catastrophique d'utiliser Gmail ?
Google a fait un outil qui s'appelle Gmail, qui est gratuit, et les gens l'ont adopté massivement. Et on se retrouve, en fait, dans un cas très particulier, qui est que l'email qui était décentralisé se retrouve centralisé, alors que c'était pas fait pour ça. Avec un souci majeur qui est que, on le sait, hein, c'est le business model de Google, et ça n'est pas condamnable en soi. C'est de tout savoir sur vous, tout savoir de vos envies, ce qui vous préoccupe, ce que vous recherchez, avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Ils lisent vos mails, ils les analysent, y compris les pièces jointes, sachant tout sur vous pour vous donner de la publicité ciblée qui correspond à vos besoins. Un certain Edward Snowden, contractuel de la NSA, les grandes oreilles de l'administration américaine, a révélé en fait qu'ils avaient des portes d'accès vers les principaux grands acteurs de l'Internet pour pouvoir espionner tous les citoyens du monde entier pour des tas de raisons qui sont pas compatibles avec la démocratie, tout simplement.
Alors Pierre-Yves Gosset, qu'est-ce que vous proposez alors avec Framasoft ?
Alors, on prend chaque service qui existe aujourd'hui au niveau de Google, Facebook et autres, et on va essayer de montrer que pour chacun de ces services, il y a des alternatives en logiciel libre qui existent pour sortir du système Google, qui est évidemment extrêmement confortable, mais qui reste une cage dorée. Et aujourd'hui, les capitaux, la capitalisation boursière de Google, ou on pourrait citer Apple aussi, leur permettent d'investir des champs et des domaines d'activité qui sont toujours plus ou moins en liaison avec le numérique, mais qui commencent doucement mais sûrement à en sortir. Par exemple, Google rachète massivement dans la robotique. Google a une société qui s'appelle Calico qui vise à euthanasier la mort, donc qui s'intéresse de très près au domaine de la santé.
Et euthanasier la mort.
Euthanasier la mort.
C'est du transhumanisme.
Exactement. Et donc, le point de vue du transhumaniste est assez clair, c'est de dire l'homme est bridé par la biologie. Et il faut que la technologie puisse aider l'homme à aller plus loin et à se réaliser. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, ce serait de dire que la technologie nous assiste et que Google, demain, nous aidera à vivre mieux et plus longtemps. Aujourd'hui, ça, c'est la volonté de Google, mais on ne sait pas quelle sera la volonté des actionnaires de Google dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et nous, qui sommes dans le milieu, malheureusement, on voit le verre peut-être à moitié vide. C'est que Google devienne tellement tentaculaire qu'on ne se pose plus des questions éthiques ou sociétale que pose un acteur d'une taille qui est quasiment, encore une fois, celle d'un État.
Nous sommes en 2015, après Jésus-Christ. Une communauté peuplée d'irréductibles libristes, Framasoft. Résiste encore et toujours à l'envahisseur. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. La vie n'est pas facile pour les garnisons des camps retranchés de GAFATUM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Toute la toile est occupée par des services centralisés. Toutes ? Non. Turn it up.
dernière étape de notre voyage au pays des Fab Labs avec Laurent Ricard qui nous reçoit à Gennevilliers où le Fab Lab est devenu ici un Fac Lab. Mais rassurez-vous, on y croise toujours plein de gens, plein de projets et d'idées à partager.
Bonjour monsieur, je vous vois sortir là d'une espèce de placard.
Tout à fait, on vient de réussir à faire une découpe laser. On a un petit projet de bricoler une fixation des skis multi-chaussures. C'est-à-dire pour faire de l'esquis, de la ski de randonnée nordique, aller bouger sur les collines enneigées avec n'importe quelle chaussure. C'est le premier prototype pour la version bêta.
D'accord.
Et en fait, voilà, mon projet, c'est d'essayer de créer une fixation multi-chaussures et éventuellement la commercialiser si ça fonctionne.
C'est quoi votre prénom d'ailleurs ?
Je sais. Je suis auto-entrepreneur. Il faut encore tester ça pendant les vacances prochaines, aux Vosges, aux Alpes, quelque part.
Ah oui, du coup, vous allez partir l'expérimenter en condition réelle.
Oui, j'ai déjà les skis. Ce qu'il me manquait, c'était la fixation.
On fait un petit tour ?
On fait un petit tour. Donc là, c'était la salle d'accueil. Il y a le canapé, la machine à café, 2-3 ordinateurs pour surfer ou pour faire de la modélisation 3D.
Là, ce qu'on entend derrière, c'est le bruit de... C'est pas une imprimante, c'est une découpeuse.
Oui, c'est une petite découpeuse vinyle, en fait.
Et là, on est dans l'entrée. Sur le mur face à l'entrée, il y a la charte des Fab Labs qui est affichée.
La charte. Elle est affichée à plein d'endroits, en fait.
Alors, en gros, moi, si j'ai bien compris ma leçon, genre sans regarder, hein, je vous dis... C'est un lieu d'échange, d'expérimentation et de fabrication.
Et de prochain.
C'est pas nécessairement high-tech.
Surtout pas. Surtout pas. Le low-tech fonctionne très bien. Et en plus, si vous venez régulièrement ici, vous verrez qu'il y a des tas de gens qui viennent faire un petit truc tout simple, qui leur pourrit la vie, qui vont remplacer, qui vont réparer. On a des gens qui sont venus réparer les barreaux d'un lit d'un bébé. C'est pas immense, hein. Mais on repart avec, on est content, et puis on a réparé, puis ça repart pour un tour. Ça durera ce que ça durera, mais c'est pas grave. Mais en fait, le lieu est tout sauf institutionnel, puisque c'est véritablement ouvert aux gens qui sont à l'intérieur. Donc, vous êtes chercheur d'emploi, vous êtes PDG, vous êtes prof, ou vous êtes madame au foyer. On vous accueillera exactement de la même manière. On ne veut pas de filtre. Et c'est ce qu'on avait dit au départ, un Fab Lab, c'est par définition un lieu de mélange. Vous dire un petit secret, hein, l'objet est un prétexte. Ça peut être un objet vraiment low-tech, high-tech, on s'en fiche en fait. C'est un prétexte. Mais à partir du moment où on se croise, on discute, donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef, il y a juste que des gens qui s'entraident. Donc, t'as un problème, est-ce que je peux t'aider ? Ou j'ai un problème, peux-tu m'aider ? Donc, il n'y a pas justement de déséquilibre, on n'a rien à acheter, on n'a rien à vendre. Il n'y a pas de transaction ici. Et c'est ça qui est très bénéfique pour tout le monde.
Alors, on continue la visite, alors ? C'est impressionnant parce qu'on voit le petit point rouge du laser qui avance à toute vitesse.
Les petites flamèches qui sortent du plexiglas, voir la machine, les petits dégazages, la coupe tellement fine à l'intérieur du plexiglas. Là aussi, c'est magique. Hein. Quand on le voit fonctionner, on dit « Ah
!» Bonjour, excusez-nous de vous déranger.
Xavier, un débutant.
Un débutant, là ? Bah, pourtant, vous êtes avec un...
Une fraiseuse numérique. J'ai eu une formation de quelques heures et je dois essayer de la refaire. Et donc là, en l'occurrence, je commence tout juste, mais un jour, j'y arriverai.
Ça va faire du bruit, ça, ou pas ?
Ah, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, oui, ça. D'ailleurs, si tu veux, là, si tu peux le faire faire un petit chemin,
juste
comme ça,
secondes,
ça se donne une idée. Alors, méfiez-vous aux oreilles, ça va.
Et c'est là qu'on fait appel aux voisins, qui sont beaucoup plus performants que moi. Brice ?
Oui ?
Il m'a ouvert cette petite fenêtre, et là, je me suis perdu. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, elle est allumée, je viens de l'allumer, et...
Ah bon, on va faire un truc tout simple.
Ah, alors, attends, fais voir un truc, c'est pas ça,
en fait. Enfin, en attendant, vous n'arrivez pas à la faire démarrer, les gars, je voudrais pas dire.
Comment vas-tu ?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Attention, vous avez du plat partout, là.
Moi, je suis au boulot.
Ça sent du travail.
Vous avez bossé sur un chantier ?
Oui, je suis dans le bâtiment.
C'est quoi votre prénom ?
Choukri.
Et vous passez ici après le boulot ?
Souvent, oui. Par plaisir d'apprendre. J'ai découvert par hasard et depuis, je viens tous les jeudis et tous les vendredis, pratiquement.
Mais ici, vous apprenez quoi, alors ?
À me servir des machines numériques. Parce que moi, je suis manuel. Je suis plutôt de la vieille école. Donc, j'essaie d'apprendre la nouvelle école.
Avant de partir, qu'est-ce que j'ai oublié de vous demander que vous vouliez vraiment faire passer ?
C'est celui qui fait a raison. Donc on a ce qu'on appelle c'est la douocratie.
Do it yourself.
Do it yourself, c'est la douocratie. Celui qui fait a raison. Donc un Fab Lab, c'est ça. Et donc c'est, on ne se paye pas de mots, on vient juste...
Donc on est loin du cliché qui est encore véhiculé parfois, de Fab Lab comme des espèces de, d'arrière-cours et de caves où sont des gens chevelus, geeks, qui veulent faire une alternative justement au système capitaliste de propriété des moyens de production, de propriété intellectuelle et tout ça.
C'est pas antinomique, il y en a, et on les accueille comme tout le monde, et ces gens-là sont formidables, parce que c'est eux qui vont vous gratter, c'est le poil à gratter, qui vous disent « mais le système, il est bien, mais il y a autre chose ». Si on teste pas autre chose, on sortira jamais notre bocal. Un Fab Lab, vous avez ces gens qui viennent tester, et tester, c'est pas forcément une machine, ça peut être un nouveau système économique, ça peut être une manière d'échanger des savoirs, c'est comment je crée une valeur qui est pas forcément monétaire, mais une valeur humaine, par exemple. Donc le futur, on va l'inventer quelque part, on est parmi les lieux où on peut aujourd'hui inventer ce futur-là. Ça ne va pas tout foutre en l'air, on fera toujours besoin qu'on produise de manière industrielle, mais tout ce qui nous touche à notre quotidien, à nos objets qui sont uniques pour nous, on aura les moyens de le faire à moindre coût et à côté de chez nous. Donc ça, ça va être une nouvelle manière de voir et de vivre, tout simplement.
Valise ? Qu'est-ce que t'en penses ? Là, elle est allumée, je viens d'allumer, et t'es là, je suis perdu. Fermez le capot. Printer, jam.
Try unplugging it and plugging it in again. Jam. Printer dead.
Comme un bruit qui court.
125 rue du Chemin Vert, la Troquette. Café atelier de la petite Roquette. Atelier réparation, récup et do it yourself. Jeudi 9, 18h-21h, les sessions électroniques. Présentation d'un montage à microcontrôleur simple et réalisation d'un micro TV Bigone. Un TV Bigone, j'en rêvais. Ce petit gadget est un extincteur de télévision universel qui vous permettra d'éteindre la télé du PMU et couper les écrans dans le métro ou même de convaincre votre voisin d'en face d'abandonner Secret Story. Alors c'est vous, Martin, qui animez l'atelier d'électronique ?
Tout à fait, c'est le premier atelier d'électronique de la Troquette aujourd'hui. Alors oui, le TV Bigon, c'est un peu le gadget de rêve. C'est une télécommande universelle. Sauf que la différence d'une télécommande universelle traditionnelle, il y a un seul bouton dessus et elle est configurée pour envoyer un message d'extinction dans tous les langages de télévision, sur tous les modèles de télévision possibles. Le but du jeu aussi, c'est de faire une petite démonstration sur l'empreinte écologique que peut avoir un montage électronique. On ne va pas utiliser de circuit imprimé. Le circuit imprimé, c'est vraiment la base d'un montage électronique. On ne va pas utiliser de carte comme ça, qui a vraiment une empreinte écologique énorme par rapport au reste des composants en réalité. Je travaille dans cette association, on a une ressourcerie, on tient une ressourcerie depuis quelques années, depuis 3 ans. J'ai énormément d'objets électroniques, de déchets électroniques qui me passent entre les mains. C'est un vrai filon, c'est vraiment des ressources avec lesquelles on peut fabriquer des choses. Mais c'est à la portée de tous. Des gens en fabrique, donc pourquoi pas nous, on peut tous le faire.
Alors là, il y a quoi ? Il y a des petites résistances, il y a des...
De petites LED, un bouton poussoir, et le fameux microcontrôleur qui va au milieu.
On va pouvoir éteindre toutes les télés du quartier. Quoi.
Avec ça, on peut éteindre toutes les télés du quartier, le mur d'écran de Darty, le PMU, le match de foot, toutes les télés y passent.
Ah bah ça va libérer du temps de cerveau disponible, ça.
Potentiellement, hein, ça va économiser beaucoup d'énergie aussi. Hein. Ça marche aussi avec les télés dans les vitrines la nuit quand il n'y a personne. J'ai eu le plaisir de rencontrer l'inventeur de ce gadget. Je l'ai croisé plusieurs fois. C'est Mitch Altman qui a inventé le TV Big On. C'est un hacker de la côte ouest des États-Unis, de San Francisco. Un pur hacker de la première heure. Hein, c'est le fondateur du Noise Bridge, le premier hackerspace de la côte ouest des États-Unis. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné d'open source, d'open hardware et de partage des connaissances techniques.
Voilà, là on y est. Alors, bah écoutez, voilà. Et alors, un petit contrôle visuel avant de mettre la pile, surtout. Voilà, ouais, surtout. Et vérifier les faux contacts. C'est-à-dire que s'il y a une soudure qui est pas très bien faite, qu'en fait elles sont juste en pression l'une sur l'autre, les pines, il faut vérifier qu'elles soient bien soudées parce qu'elles pourront se défaire plus tard.
Ah ouais.
Ça clignote ?
Ouais.
Et donc ce clignotement là, c'est la trame.
D'accord.
Trame d'extinction des télés.
Alors ça y est, le TV Big On est prêt, est soudé. Notre petit circuit. Il libère du temps de cerveau disponible.
Donc celui-là, il marche. On va quand même s'amuser. On va aller trouver une télé. Ouais, trouver une télé.
7 sur 10.
Ouais, super.
Impeccable.
Les hackers de son.
Au fond de l'heure, le coin des bidouilleurs, c'est parti. Direction Vitry en Artois, dans le nord Pas-de-Calais. On va rencontrer des férus du couple ORTF. Non, pas des vieux nostalgiques de l'Office de Radiodiffusion Télévision Française et son ministère de l'Information associé. Non, des jeunes bidouilleurs de son, passionnés du son et qui utilisent avec vénération la fameuse technique de prise de son stéréo et tout terrain, dite du couple ORTF. Deux micros écartés de 17 cm et faisant entre eux un angle de 110 degrés, pas plus. C'est la mécanique des sons et ses horlogers, Jérôme Bailly et Aurélien Bloch, qui sont nos invités dans Comme un bruit qui court, parce que le son, ça nous parle.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter. Le Radio Fab Lab.
Apporter de la surprise. Les poules, en picorant, tapent sur des surfaces différentes. Du bois, par exemple, du plastique, une bassine.
Les hackers de son.
Ces percussions-là, il faut les reprendre et en faire autre chose. Essayer d'en faire une musique. Une sorte de concert au poulailler. Je suis Jérôme Bailly, journaliste dans une radio associative du nord de la France qui s'appelle Radio Scarpe Sensée.
Radio Scarpe Sensée, Scarpe Sensée, la plus locale des FM.
Tout son capturé est subjectif. Il y a toujours une patte personnelle dans les sons que j'enregistre et qui sont ensuite de toute façon transformés dans la machine, dans l'ordinateur. Donc de toute façon, il y a une empreinte personnelle et il y a quelque chose à raconter avec les sons. Mind Machines. Traces sonores de ma télé, ma cafetière, ma machine à laver, mon mixeur de cuisine. J'ai donc pris ces sons avec mon enregistreur Nagra, mes micros branchés avec une technique qui s'appelle ORTF. J'ai tout samplé.
Aurélien Bloch, alors je suis musicien, bricoleur d'instruments bizarres. J'ai commencé à bricoler des instruments de musique en travaillant en ressourcerie. Donc c'est une association qui collecte des encombrants, qui sauve des déchets de la benne, qui les remet en état. Et donc j'avais là un réservoir en fait de plein d'idées. Et le fait d'avoir sous mes yeux tous ces déchets, ça m'a donné envie d'en faire quelque chose. Donc imaginez des hochets, des mobiles de bébés, des petits téléphones à roues qui font ring. Tous ces choses-là, on leur a donné une vie musicale. Hein. C'est la toy musique. Alors Jérôme, c'est plutôt le son trouvé, moi c'est plutôt l'objet trouvé. Et quelque part, ma démarche s'apparente un petit peu à un acte de rébellion, parce qu'on vit dans une société qui jette, et ça me révolte. Donc j'ai le désir, en fait, de détourner, comme Marcel Duchamp pouvait le faire avec son urinoir. J'ai envie de détourner ces objets, et de rebut qu'ils sont, de leur redonner une valeur à les faire chanter. Donc par exemple, une boîte de Benko va devenir un banjo.
l'envie des horlogers du bruit aussi, c'est que je voyais Aurélien bricoler des sons, faire de ce qu'on appelle la lutherie sauvage avec les objets qu'il trouve, et je me suis dit, bah tiens, moi, je trouve aussi des sons, enfin, je capture des sons comme on peut capturer une image avec une photo. Donc, c'est juste à un moment donné dans le temps, le fait de capturer un son qui se reproduira peut-être plus jamais d'une certaine façon. De ce fait là, je me suis dit, on est un peu dans la même démarche de créer quelque chose d'original. De ce fait là, on a commencé à essayer de mélanger les deux en même temps, les sons d'objets trouvés qui sonnaient d'une façon très originale et les sons capturés dans la nature ou en ville ou peu importe. Je sais pas si on peut dire que c'est une action militante, mais en tout cas un engagement, on va dire un engagement sonore, on peut peut-être dire ça.
Trois de grenouilles en détresse, en fait, enregistrées dans une mare en dessous d'un terril du Nord-Pas-de-Calais.
Et c'est vrai qu'au début, les auditeurs n'étaient pas forcément là, mais après, il y a tout un réseau qui a commencé à naître autour de ça, et des gens curieux, des oreilles curieuses, comme je les appelle, qui ont commencé à écouter et se dire, mais tiens, il y a peut-être d'autres choses à aller entendre, à aller écouter. Road Trip Sounds, c'était dans la forêt de Marchienne, dans le Nord. J'avais rencontré des fous du voyage, ils s'appellent les Mad Bugs. J'ai profité pour enregistrer le moteur, les portières, les klaxons, etc. Road Trip Sounds.
Hashtag comme un bruit. Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
La musique populaire, mère de la rue. Quand les anciens seront partis, tu es une des seules sur qui on pourra compter. Nous, êtres fragiles, écartelés, divisés, dévalisés aux cinq sens vidés de la sève mère des instincts.
C'était comme un bruit qui court avec un générique de Fantasio, merci à lui. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, vous pouvez nous podcaster et nous laisser des messages.
Je vous rappelle que France Inter et Nicolas Demorand vous donnent rendez-vous pour une émission spéciale ce soir de 18h à 20h. Après les infos, vous retrouverez La Preuve par Z avec Jean-François Zigel et nous on se retrouve samedi prochain à 16h. En attendant, France Inter, il est 17h.